Question d'islam par Al-Benchi. Aujourd'hui, nous parlons des oulémas, un terme générique pluriel. Qui sont-ils? Que font-ils? Qu'entend-on par les oulémas? Pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à recevoir Charlotte Courey. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Charlotte Courey, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Vous êtes historienne, vous êtes arabisante. Vos travaux ont porté sur les oulémas d'une manière générale et tout particulièrement sur les oulémas algériens. On entend parler dans les différents titres des cadres religieux musulmans, des muftis, des imams, des aumôniers, des prédicateurs, dans le contexte chiite des ayatollahs, et on entend peu ou on ne comprend pas tout à fait que font les oulémas. Alors, qui sont-ils? Qu'est-ce que cela veut dire, ouléma?
En fait, les oulémas, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça vient du terme arabe alim, le pluriel ouléma, qui veut juste dire savant au départ. Alim, c'est le savoir, qui était au départ plutôt un savoir religieux, orienté vers l'étude de la tradition du prophète, donc des hadiths, et de la jurisprudence, donc du fiqh. Et le terme a évolué avec les évolutions de l'histoire et des sciences, et donc c'est devenu un terme plus générique après pour désigner aussi un savant de sciences profanes. Et donc à l'intérieur des oulémas religieux, il y a effectivement les imams, les fuqaha, donc ceux qui établissent la jurisprudence, les muftis que vous avez cités, en fait ils sont regroupés sous ce grand chapeau des oulémas.
Alors ce qui est curieux, c'est que ce terme qui est pluriel est parfois en français rendu au singulier, on dit un ouléma.
Oui, en fait, le terme est vraiment entré dans la langue française, certainement en lien avec la colonisation et l'importance que ce corps qui s'était constitué à la période médiévale et qui a été l'objet d'études en fait de la part notamment de la colonisation française. Et donc le terme a été tellement utilisé que c'est entré par la science coloniale certainement dans le langage courant en fait.
Bien sûr, il n'y a aucune commune mesure dans ce que je vais dire et avec une différence énorme. C'est un peu comme on dit les spaghettis, un spaghetto, mais on le dit pas, c'est pareil, ce sont des oulémas et un alim, mais on ne dit pas un alim, on dit oulémas, même au singulier. Il y a quelque chose d'équivalent pour les talibans, ce qui est aussi pluriel, pas nécessairement dans la langue arabe, et on dit un taliban alors qu'en réalité c'est un taleb. Oui. Bon, allez, on rentre pas dans les finesses d'ordre sémantique des langues véhiculaires de la pensée religieuse, mais pas uniquement islamique. Comment se fait-il que les oulémas ont pris cette importance un peu de corps religieux à travers l'histoire, qui parfois était autonome par rapport à la politique, aux politiques?
Oui, c'est vrai que je crois que c'est vraiment l'enjeu crucial, surtout quand on veut en parler pour la période plus contemporaine du rapport à l'autorité politique, puisqu'en fait les oulémas sont déjà une autorité en islam, et donc ils vont permettre de légitimer le pouvoir politique et on peut s'en servir, et c'est tout l'objet de notamment de la littérature du Miroir des Princes, avec le conseil du Halim, donc de l'ouléma, au souverain, qui est donc une exhortation, un conseil amical qui doit aiguiller la façon de régir la société. Mais en fait, on en parle comme d'un corps établi, effectivement, c'est le cas. Il y avait notamment des signes distinctifs vestimentaires, le fait de porter un turban blanc pour montrer qu'on est dépositaire d'une certaine science. Mais en réalité, à l'intérieur de ce corps-là, il y a une grande diversité, comme partout, en fait, dans tous les corps sociaux constitués. Et donc, on a différentes sciences représentées et différentes tendances et obédiences politiques et religieuses au sein de ce corps des oulémas.
Oui, vous avez bien fait d'aborder la question de la longue tradition de Miroir des Princes, parce qu'on a toujours pensé qu'on a gouverné selon le désir politique de Dieu et même sur injonction divine, alors qu'en réalité, avec cette tradition du Miroir des Princes, c'était une exhortation sur un plan éthique de dire aux princes comment il faut gouverner, peut-être en suivant le modèle d'Alexandre de Chosroès, qui n'ont rien à voir avec la tradition islamique. On en a un en tête, quelqu'un comme Ibn al-Muqaffa, c'est presque intraduisible ou imprononçable en français. L'homme dont les mains ont été escamotées, ça mérite une science, une émission à part. Et celui-ci, ce Ibn al-Muqaffa, entre autres, mais pas uniquement, était pourvoyeur de cette tradition du miroir des princes.
Et là, en fait, on retrouve aussi la jonction entre le rôle de alim, donc d'ulema, et de adib, de lettré. Enfin, la question est réactualisée avec la fin du 19e, le début du 20e siècle et ce qu'on appelait le courant du réformisme musulman.
Oui, on verra tout cela tout au long de l'émission. Les oulémas, les olamas, selon un hadith, encore faut-il savoir s'il est authentique ou apocryphe, ont toujours été présentés comme les héritiers des prophètes, comme le cycle de la prophétie est clos, en tout cas selon un dogme. Encore faut-il ne pas trop s'accrocher comme ça, d'une manière dogmatique à ce qui est dit. Le scellement de la prophétie est admis, notamment chez les sunnites. Et comme il n'y a plus de prophètes, il n'y a que les oulémas. Et vous avez bien fait, Charlotte Couré, pardon à supposer que je puisse parler ainsi, de dire que les oulémas ne sont pas dépositaires, en tout cas au moins à travers l'histoire, uniquement d'un savoir exclusivement religieux. Ça pouvait toucher aux autres disciplines. Ce n'est que dans le temps qu'on est amené à restreindre leur champ uniquement au savoir religieux. Charlotte Corée, est-ce que pourriez-vous nous dire aussi, à travers l'histoire, des exemples d'oulémas qui ont fondé des écoles, des écoles juridiques avec certains jurisconsultes?
Vous pensez aux écoles juridiques musulmanes?
Oui.
Comme l'imam Malik, par exemple, pour le malikisme.
Et lui, il passe pour un ouléma, maintenant, selon la terminologie de maintenant.
C'est aussi, effectivement, des savants qui ont étudié toute la tradition, qui s'intéressent aux chaînes de transmission des traditions prophétiques. Si on veut faire un saut dans le temps, parce que je parle de chaînes de transmission... beaucoup plus récent et contemporain, il y a le Cheikh Al-Albani, qui a aussi beaucoup consacré de temps à la chaîne de transmission pour savoir qui a transmis à qui. Puisque, en fait, tout le savoir, et là, on touche à quelque chose d'important aussi, tout le savoir s'est transmis oralement au départ. Et la mise par écrit a aussi beaucoup bouleversé, en fait, cette place des oulémas, puisque le savoir qui était transmis d'un maître à un élève, et donc était quelque chose de très précieux et qui était un privilège, avec tout le développement de l'écrit, et puis après encore plus avec l'imprimerie et la reproduction facile des écrits, il a fallu renouveler en fait les fonctions de ces oulémas qui se retrouvaient un peu dépossédés de leurs secrets et qui ont dû aussi réfléchir à comment se servir de ces nouveaux moyens-là pour diffuser la science, tout en conservant quand même d'ailleurs le rapport maître à élève et le statut d'autorité de ces oulémas qui ont quand même étudié plus que ceux qui simplement déjà savent lire, ce qui était déjà pour une grande partie de l'histoire quelque chose de très rare.
Alors, ce que vous dites est vrai, Charlotte Courrey, parce qu'on dit que l'imprimerie, la fameuse machine de Gutenberg, a joué un double mauvais tour à l'islam, pour faire simple. Une première fois, lorsque ça a été refusé par le sultan ottoman, disons-nous, on n'en a pas besoin, on a les meilleurs copistes, les meilleurs scribes qui soient. On n'a pas besoin d'une machine pour écrire nos ouvrages et nos propres scribes sont des savants, eux-mêmes héritiers des oulémas. Et après, quand on s'était rendu compte que finalement la diffusion du savoir était aussi à travers les livres, il y avait certains ouvrages qui étaient entre les mains sans le truchement des oulémas. Or, il fallait quand même canaliser ce savoir.
D'ailleurs, c'est aussi sous l'Empire ottoman qu'il y a eu toute la hiérarchisation du corps des oulémas, avec le cheikh El Islam qui était à la tête de la hiérarchie. Et ça a fait partie de cette institutionnalisation du corps qui, pourtant, jusque-là, était quelque chose... Alors, ça avait été déjà le cas sous le califat abbasside, les seljoukides, mais c'est vraiment le moment où on a une hiérarchie très structuré, qu'on a un peu reperdu après, mais qui a été récupéré du coup par les puissances coloniales derrière.
Oui. À telle enseigne que toutes les contrées qui étaient sous domination ottomane ont gardé cette idée, cette hiérarchisation, et parfois un alim ou un ouléma, et on utilisera le terme français, même si c'est un pluriel, on le dira au singulier, et qui se trouve être un ouléma mufti, c'est-à-dire qu'il est habilité à décréter des fatwas. Ce ne sont pas les fatwas sous-entendus comme condamnation à mort, comme c'est diffusé maintenant, hélas. Une question, Charlotte Courey. À travers l'histoire, ce corps des oulémas, ce collège des oulémas, a par moments été libre, tout à fait autonome et affranchi de la tutelle du politique. Par moments, il a été totalement inféodé au désir du prince.
Mmh. Ben, c'est effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la légitimité politique que peut donner une autorité religieuse propre. Et en fait, c'est effectivement des périodes où il y a une prise d'autorité plus ou moins forte du politique sur la science qui est émise. Je ne sais pas, vous pensiez peut-être à une période en particulier.
Non, vous avez évoqué à juste raison la période abbasside. Et durant la période abbasside, sous la dynastie seldjoukide, il y avait par moment une autonomie réelle du collège des oulémas. Ce qu'on oublie, et c'est bon de le faire savoir ou de le réactualiser, c'est qu'à un moment donné, les religieux étaient autonomes par rapport au pouvoir politique et vice-versa.
Mmh. Mais je crois que là, justement, au moment de la dynastie seldjoukide, il y a un basculement parce qu'il y a la création d'écoles qu'on appelait les madrassas, qui formalisent et qui institutionnalisent ce rôle des oulémas. Et donc, ça joue aussi certainement dans la façon dont après, c'est le politique qui organise l'institution dans laquelle sont formés ces savants. Alors qu'au départ, c'était quelque chose, comme je le disais, d'une relation personnelle d'un maître à un élève, avec tout le travail de rechercher la science, comme on le retrouve aussi dans les hadiths exactement. Mais avec le voyage à Rihla, Talab al-Ilm, donc la quête de science en fait, et on va de maître en maître et on va chercher l'autorisation d'enseigner qui est délivrée après un certain temps. Et donc là, c'est vraiment la constitution d'une institution qui va régir ça pour la première fois et qui après a été développé, réactualisé au fil du temps.
L'autorisation d'enseigner, cette fameuse licence dans tous les sens du terme, mais dans le sens que nous connaissons maintenant, même comme un diplôme, c'est que le futur alim se met parfois devant ses futurs pairs, en tout cas devant ses maîtres, il l'interroge. Si les réponses sont probantes, il a cette fameuse autorisation. Il sera licencié, pas au sens d'être remercié, mais il aura la licence de pouvoir enseigner.
Et souvent, en fait, ce voyage en quête de science, il se termine par un retour au pays d'origine ou même à la ville d'origine, avec toutes ces autorisations d'enseigner qui ont été cumulées auprès de grands cheikhs, de grands maîtres. Et ça permet ensuite de développer l'enseignement local quand il y a un savant qui revient sur sa terre natale.
Oui, et peut-être aussi ce fameux hadith, encore une fois, nous prenons avec beaucoup de circonspection les aphorismes du prophète, mais celui qui dit aller en quête du savoir ou acquérir le savoir fût-ce en Chine, avec cette idée que le voyage en Chine est périlleux et lointain, mais rien ne doit coûter, rien ne doit dissuader d'entreprendre de si longs voyages pour le savoir. Mais le plus important, c'est que ça sous-entend que le savoir à Médine n'était pas autosuffisant. Mmh. Mais ça, on ne le dit pas, on ne le fait pas savoir. Donc le savoir religieux, fut-il révélé, en soi seul n'est pas suffisant. Mmh. Et la sagesse est la proie du croyant, il la saisit fermement là où il la trouve. Charlotte Courey, passons maintenant à l'idée des oulémas dans la période contemporaine. Et comment vous-même étiez intéressée par l'étude des oulémas?
Alors moi, en fait, dans mon cursus personnel, j'ai d'abord étudié l'arabe à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, à l'INALCO. Et dans mon cursus, j'avais un cours d'anthropologie de l'islam contemporain qui était donné par Catherine Meyer-Jawen, qui a ensuite dirigé ma thèse, et qui évoquait ces questions du savoir religieux et du réformisme musulman dans l'islam contemporain de façon générale. Et moi, je m'intéressais beaucoup à l'Algérie depuis l'adolescence, et donc je me suis intéressée à une figure qui avait été citée dans le cours et qui était donc la figure de Ben Badis, un ouléma algérien qui a été le premier président de l'Association des oulémas musulmans algériens en 1931.
Alors nous prendrons comme exemple cet ouléma, Abdelhamid Ben Badis, et l'association qu'il a fondée. Nous verrons cela ensemble. Y a-t-il d'autres oulémas dans d'autres contrées, dans d'autres contextes, ou c'est uniquement, ce sont les oulémas algériens qui vous ont intéressé?
Alors pour mon travail, donc au départ c'était les oulémas algériens, dans le cadre du master d'abord et puis ensuite de la thèse. Mais en fait, pour pouvoir faire ce travail de thèse, j'ai notamment pour rédiger l'introduction qui discutait cette question du statut du alim et de son évolution au XXe siècle. Du coup, j'ai lu aussi d'autres choses, et notamment sur les oulémas indonésiens par exemple.
C'est vrai que depuis Jakarta jusqu'à Dakar, pour aller dans une étendue horizontale, mais on en a aussi ailleurs, et on verra dans le cas français à la fin de l'émission, les oulémas locaux, parfois quand ils acquièrent un statut important, ils dépassent les frontières de leur propre pays. Mmh. Il y a les oulémas marocains, il y a des oulémas tunisiens. Pourquoi je parle de ces deux? Parce qu'il y a l'université Al-Qarawiyyin et l'université La Zaitouna.
Oui, deux grandes institutions. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi peut-être, alors ça nous paraît peut-être évident, mais c'est que la relation du croyant à Dieu en islam, elle est fondée sur la relation directe, et que ces oulémas, en fait, ils sont deviennent autorités parce qu'ils ont le savoir que les croyants de base, disons.
Le commun des croyants.
Voilà, le commun des croyants n'a pas forcément, par son éducation, et notamment pour tous ceux qui sont dans des classes sociales dans lesquelles on n'a pas accès à l'éducation et au savoir. Et donc, ils ont cette autorité-là aussi. Ils interviennent dans la relation à Dieu par l'apport d'un savoir et d'une tradition.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons des oulémas, ce corps de clercs, ces religieux savants, avec Charlotte Courrey, historienne et arabisante, maître de conférence à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Charlotte Courrey, on dit souvent, et c'est vous qui allez infirmer ou confirmer cela, qu'il n'y a pas de structure cléricale, il n'y a pas d'autorité centrale, notamment dans l'obédience sunnite. quand bien même il y aurait un clergé chez les chiites, il serait ou il n'est que d'ordre académique et pas d'ordre sacerdotal. Pensez-vous que les oulémas constituent néanmoins l'équivalent d'une structure cléricale?
Oui, je crois que dans les faits, effectivement, c'est ceux qui représentent l'autorité qu'on va consulter pour demander si il faut pratiquer comme ceci ou comme cela, si quelque chose est permis ou pas. Donc c'est de fait, en fait, comme ils détiennent le savoir, ils deviennent une autorité de référence. Et en cela, effectivement, on peut faire le parallèle avec le clergé, même si cette idée du clergé, elle a fait débat, de long feu, mais je pense que c'est aussi lié, notamment pour le cas de la France qu'on évoquera tout à l'heure, à toute la période coloniale où il y a eu institutionnalisation de la religion musulmane dans l'Algérie colonisée, avec l'institution d'une sorte de clergé sur le modèle de ce que connaissait la France auparavant pour la chrétienté. Mais de fait, oui, en fait, dans la pratique.
Alors, il y avait à travers l'histoire, jusqu'à présent, maintenant la formule ne veut plus rien dire. Qu'entend-on par ceux qui savent lier et délier? D'abord, lier et délier quoi? Et pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi?
D'abord parce qu'ils peuvent, tout à l'heure je parlais de la chaîne de transmission, donc ils peuvent retracer l'origine du savoir par la transmission orale. Ils peuvent délier, et là, je sais pas, spontanément je ferais le lien avec le pli de Deleuze et déplier. C'est-à-dire qu'ils vont après aller déplier les différentes facettes de ce savoir-là, et donc délier ce qui était très complexe et les chevaux complètement serrés, et tirer le fil pour arriver à une science qui soit plus claire et qui puisse être transmise, puisque le but après, c'est de la transmettre par l'enseignement.
C'est vrai que ces hommes-là, il y avait à travers l'histoire aussi quelques femmes, faire partie de ceux qui savent lier et délier, sous-entendu, les chevaux des questions complexes, religieuses, gnostiques et théologiques, conférer à la personne un grand prestige. Donc c'est une notabilité intellectuelle.
Et en fait, c'est aussi une notabilité qui est reproductive, puisque celui qui est savant souvent transmet à ses enfants son savoir, ou en tout cas fait transmettre par d'autres si lui ne le fait pas lui-même. Et donc il y a aussi, alors c'est encore plus vrai chez les chiites, parce qu'il y a cette dimension d'hérédité qui est déjà assez forte dans leur conception doctrinale, mais même pour les oulémas sunnites, en fait, on a plus de chances d'acquérir ce savoir-là quand on est soi-même enfant de Alim.
D'où certaines familles, elles-mêmes des familles d'oulémas ou de notables, ou faisant partie, toujours selon cette formule, de ceux qui savent lier et délier. Et on ajoute toujours les chevaux des questions complexes, religieuses et scientifiques. Scientifiques, peut-être pas les sciences exactes, mais de nos jours peut-être, et ça serait une question que je vous poserai, le fait de maîtriser les sciences humaines doit faire partie des connaissances que les oulémas doivent acquérir.
C'est une question qui a été discutée déjà à partir du 19e siècle et de l'idée d'entrer dans la modernité, de s'adapter au progrès des différentes sociétés mondiales et notamment dans le rapport entre Orient et Occident et les échanges entre Orient et Occident. Oui, cette question des sciences profanes, en fait, elle apparaît à chaque fois dans les créations d'écoles. En Égypte, en fait, toute la réforme d'Al-Azhar, la grande mosquée université qui avait été menée au 19e siècle, c'était déjà pour essayer de réfléchir à comment on pouvait introduire les différentes sciences dites profanes à côté des sciences religieuses pour que le alim soit plus complet, pour que le ouléma puisse réfléchir dans son temps. Et qui soit pas dans une science qui a été considérée comme sclérosée par ceux qui ont attaqué ce corps des oulémas très institutionnel au 19e siècle.
Alors, ce qui est curieux, c'est que certains disent que les programmes enseignés maintenant à l'université Al-Azhar, nous n'avons pas vérifié pour cette année ou l'année précédente, seraient en régression au niveau de leur ingénierie pédagogique par rapport à la charnière 19e, 20e siècle, sous Mohamed Abdou, par exemple.
Alors, effectivement, j'ai pas non plus vérifié les cursus, mais en tout cas, oui, pour la période de Mohamed Abdou, il a dit, je crois, je sais pas si c'est dans des écrits, certainement dans des écrits personnels, mais ou dans la presse, parce qu'il a beaucoup rédigé d'articles, qu'il avait dû défaire tout ce qu'il avait appris à Al-Azhar pour pouvoir réfléchir comme savant émancipé et il a beaucoup appelé à l'utilisation de la raison et justement le fait d'avoir les sciences profanes en complément des sciences religieuses, parce que c'est aussi des gens qui sont très érudits d'un point de vue du hadith et du fiqh, mais ça aide aussi à réfléchir à sa société et à comment on peut permettre aux croyants dans sa société de pratiquer leur religion en accord avec le monde dans lequel ils vivent.
Un mot peut-être sur Mohamed Abdou qui en fut le recteur et a dirigé l'institution, l'université Al-Azhar. Il est mort en 1905. Il est connu par une célèbre fatwa, la fameuse fatwa du 28 octobre 1903, dite la fatwa du Transvaal, pour que les musulmans de stricte observance peuvent manger la viande, même si elle n'est pas abattue rituellement, parce que ce qui leur est interdit, c'est de manger d'une viande d'un animal abattu à une autre divinité qu'à Dieu. Comme un holocauste, à l'époque, c'était pour tarir l'idolâtrie. Alors, venons-en à une figure qui vous a beaucoup intéressé, c'est celle de Abd al-Hamid ben Badis. Qui est-il? Il était caractérisé par quel signe intellectuel.
Alors, c'est donc un savant algérien qui est né en 1889 et qui est décédé en 1940, qui a vécu...
Le 16 avril.
Le 16 avril, qui est devenu maintenant la journée de la science, Youm El-Ilm, en Algérie, pour se commémorer le jour de son décès. Et il a grandi, enseigné à Constantine. Et lui aussi a fait ce voyage en quête de science, puisqu'il est allé jusqu'à Tunis, à la Zaytouna, donc l'autre grande mosquée université. On évoquait tout à l'heure la Qarawiyyin et puis El-Azhar.
Deux des plus vieilles universités au monde, bien avant Bologne et bien avant le collège de Sorbonne.
C'est vrai.
Le collège de Robert de Sorbonne.
Très juste. Et donc Ben Badis est passé, Abd al-Hamid Ben Badis est passé par cette université de la Zaytouna. Et il est revenu ensuite pour enseigner. Il est aussi allé au Hedjaz jusqu'à la Mecque, avec un voyage en Orient qui, pour les Maghrébins, faisait partie aussi de la formation qui est liée au moment du pèlerinage. Et à son retour, il a voulu enseigner. Donc ça, c'est très traditionnel du statut d'ouléma. Lui était issu d'une famille de la bourgeoisie citadine constantinoise. Et dans son ascendance, on trouve des représentants des musulmans, tels qu'ils étaient appelés à l'époque pour l'Algérie colonisée, au sein des assemblées, des délégations financières, donc avec une famille qui était installée en fait dans la notabilité constantinoise. Et lui-même en fait a voulu, en réaction à la colonisation, transmettre un savoir, mais qui soit justement, qui permette aux jeunes musulmans de réagir à la société dans laquelle il vivait, et donc une société coloniale. Et il a voulu promouvoir une identité algérienne et musulmane de l'Algérie dans un contexte de colonisation et de francisation, en tout cas de crainte de francisation de la population locale.
Et il s'insurgeait aussi contre certaines pratiques de superstition véhiculées ou diffusées par une certaine forme de soufisme ou de spiritualité un peu frelatée.
Effectivement, quand il commence à enseigner, c'est la fin de... C'est juste en 1913-14, donc juste dans l'entre-deux-guerres, en fait. Il est très actif dans l'enseignement et très actif aussi d'un point de vue religieux et plus doctrinal, là, sur l'opposition à la sclérose religieuse qui serait donc celle d'une tradition figée qui se renouvelle pas, mais aussi celle qui serait liée effectivement à des dérives du soufisme telles qu'elles sont conçues par ce courant d'Abd al-Hamid ben Badis qui se réclame donc de l'islah, donc du réformisme ou de la réforme de la religion, et qui là défend l'idée que tout ce qui relève du culte des saints, qui a été intégré au soufisme dans l'islam maghrébin, serait à condamner, puisque il y a la pratique d'intercession, donc de prière sur les tombes, de toutes les pratiques qui seraient condamnables d'un point de vue purement doctrinal pour ce courant-là. Et donc effectivement, toutes les pratiques superstitieuses, magiques, qui relèvent d'une évolution de la religion à laquelle Ben Badis s'appelle à mettre fin pour, au contraire, revenir aux sources. Et donc là, on retrouve aussi, on parlait tout à l'heure de Mohamed Abdou, c'est ce grand courant qu'on a qualifié de réformisme musulman en français, l'idée de revenir aux sources du texte coranique et de la tradition du prophète, mais en ayant accès directement aux sources. Et donc là, c'est aussi tout l'objet de l'enseignement de Ben Badis, qui a non seulement enseigné les sciences religieuses, mais aussi la langue arabe, et à un niveau avancé, comme la tradition savante l'exige, puisque le texte révélé est révélé en arabe, mais avec l'idée qu'il faut permettre aux croyants d'avoir accès au texte sacré et de se référer directement, de comprendre par soi-même le sens. Donc ça a été un grand changement dans la façon de concevoir la science religieuse, puisque c'était, au lieu de répéter et de transmettre ce qui a été appris par cœur, même dans l'apprentissage du Coran, c'était expliquer le vocabulaire, expliquer les contextes de révélation, etc. Donc ça a apporté en fait beaucoup d'idées nouvelles dans la façon de concevoir cette science religieuse.
Alors, Abdelhamid Ben Badis et d'autres, y compris ses propres maîtres à lui, s'étaient insurgés contre cette forme de superstition, une spiritualité dévoyée, voire un certain charlatanisme, parce qu'on rapporte que l'autorité coloniale avait distribué des torches électriques que certains faux maîtres actionnaient par en dessous le burnous, et le peuple crédule se prosternait devant les lumières divines sans temps. Charlotte Courrey, Abdelhamid Ben Badis finalement va fonder l'association des oulémas musulmans algériens, la fameuse AOMA, le 5 mai 1931. Comment peut-on être admis pour en faire partie?
Alors, ça change beaucoup dans les premières années, c'est-à-dire que c'est fondé en mai 1931 avec en fait l'ensemble des savants religieux musulmans qui voulaient y participer dans l'Algérie colonisée. Et donc, à la fois des courants proches de la conception de Ibn Badis, mais aussi des soufis. Donc la première année, en fait, cette association des oulémas musulmans algériens, elle n'est pas forcément rattachée à une obédience ou l'autre dans ces courants-là de pensée. Par contre, il y a dès la deuxième année une prise de pouvoir du bureau exécutif de l'association par ceux qui sont de la tendance du réformisme musulman. Et donc l'association est devenue à partir de là celle que maintenant on a en tête quand on y pense, c'est-à-dire celle qui effectivement condamne les pratiques superstitieuses. Mais sachant qu'en fait tous ces oulémas-là qui condamnent ces pratiques-là sont eux-mêmes issus d'un terreau soufi, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont grandi dans des familles soufis. Et Ben Badis par exemple allait à la Zawiya Rahmania pour célébrer les fêtes religieuses en très bonne entente. Et c'était vraiment l'idée qu'il y avait des dérives et qu'il fallait condamner ces dérives-là.
Une Zawiya étant, allez, on va dire, une forme de confrérie, et Rahmania, c'est le maître éponyme étant Rahmani. Charlotte Courrey, ce qui est étonnant, parce que on a à peine l'imaginé maintenant, c'est que c'était d'une grande avancée moderniste. Les écoles fondées par cette association et par Ben Badis, qu'on appelle les instituts ou les maisons du hadith, de la parole, des propos, des aphorismes, des maximes, étaient mixtes.
Oui. L'enseignement des petites filles fait partie des priorités de l'association des oulémas, avec l'idée que ces petites filles vont après devenir des mères, évidemment, et qu'elles vont pouvoir transmettre une science religieuse éclairée à leurs enfants, et en tout cas des bonnes pratiques, sachant que à chaque fois, bon, il y a les limites qui vont avec, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la jeune femme est en âge d'être mariée, bah, elle va plutôt aller se marier que continuer les études, mais effectivement, il y a quand même l'idée que les petits garçons et les petites filles doivent être formés en langue arabe, en hadith, apprendre le Coran en comprenant ce qu'ils apprennent. Il y avait aussi des enseignantes femmes dans les instituts de l'association.
Alors, ce qui est curieux, c'est que ces enseignantes n'étaient pas voilées et elles portaient pour certaines d'entre elles, parce que c'était la pratique, une forme de diadème mou et qu'elles mettaient sur leurs cheveux, sur leur tête, et elles avaient une tenue décente sans être nécessairement mitouflées. C'est une régression terrible par rapport aux années 30-40. Et quand on voit maintenant toutes les logorées dégénérées à propos du voile, et notamment en France.
Alors, le voile, c'est une question personnelle aussi, hein, mais sur la question des enseignantes, effectivement, il y a notamment une enseignante qui est une écrivaine depuis Zohr Bounissi, qui a été aussi ministre des Affaires sociales en Algérie, et qui a été formée au sein de l'association des oulémas, et qui a publié ses mémoires avec tout un carnet central avec beaucoup de photos, et effectivement, sur aucune photo, elle ne porte le voile. et elle l'a jamais porté après non plus. Et il y a eu beaucoup de débats en fait dans les journaux de l'association des oulémas sur la question du voile avec, et là encore c'est comme on disait tout à l'heure, les oulémas c'est un corps constitué, mais en fait à l'intérieur il y a une très grande diversité, c'est pareil pour l'association des oulémas. Et moi c'est ça qui m'a intéressée en fait dans le fond, moi j'ai travaillé sur ce qu'ils deviennent après l'indépendance, et c'est très révélateur de ce qu'ils étaient déjà avant l'indépendance, c'est-à-dire en fait ils se rejoignent sur certaines positions et sur la nécessité de défendre l'islam dans l'Algérie colonisée, mais après à l'intérieur, d'un point de vue à la fois doctrinal et politique, on a des diversités d'opinions très très larges.
Et puis les propres filles de certains membres de cette association des oulémas n'ont jamais été voilées. La fille du Cheikh Arbit Tebisi, la fille de Cheikh Bachir Ibrahimi, pour ne citer que ces deux-là, on dit Cheikh par déférence pour eux, n'ont jamais été voilées aussi.
Non, et c'est vrai que la fille du Cheikh Tebisi a beaucoup parlé de son enfance, et en fait elle a été éduquée par son père, elle avait le droit d'aller sélectionner, sauf certains ouvrages qui étaient en fait les ouvrages des polémiques en Égypte en ce temps-là. Et elle raconte ça dans des interviews télévisées, effectivement elle est dévoilée, elle raconte qu'elle ne l'a jamais portée.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons des oulémas avec l'historienne et arabisante Charlotte Courret. Charlotte Courret est maître de conférence à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Et nous poursuivons sur les oulémas. Nous avons pris comme exemple les oulémas algériens. Peut-être encore un autre point sur cette grande figure qu'est Abdelhamid Ben Badis. Il était aussi guide spirituel des scouts musulmans, et les scouts, les garçons étaient en Bermuda et les jeunes filles étaient en jupe.
Oui.
Si elles devaient avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou. Mmh.
Oui, c'était vraiment le modèle des scouts, comme les petits scouts chrétiens ou laïcs qui existaient à la même époque, avec toute une organisation de l'association qui était de soutenir toutes les activités culturelles et sociales qui pouvaient permettre l'émancipation des Algériens musulmans. Et donc le développement du sport, et effectivement avec toujours l'idée que c'est valable pour les petites filles et pour les petits garçons.
Ce qui est curieux, c'est que les écoles étaient mixtes lorsqu'elles elles étaient libres ou privées, ou confessionnelles, et les écoles de la République, l'école communale, séparaient les garçons des filles.
C'est vrai que ça paraît paradoxal maintenant avec le recul.
Cela paraît paradoxal. Il y a encore un autre point, on les avait longtemps soupçonnés d'être en collusion avec les communistes.
C'est fondé en fait.
Et en plus c'est fondé.
C'est fondé notamment à Constantine, puisque dans l'idée qu'il fallait permettre aux populations algériennes musulmanes de s'émanciper socialement, mais même d'un point de vue de financement, enfin de comment vivre, faire vivre la société locale, et puis d'un point de vue de l'éducation, il y avait une jonction des différents courants Et je pense notamment à une figure de l'association des oulémas qui s'appelle Reda Hoho, donc il y a un lycée de Constantine porte son nom maintenant et qui a beaucoup travaillé avec les communistes. Mais il y a des articles, des écrits de Abdelhamid Ben Badis sur le fait que certes, on n'est pas d'accord avec les communistes parce que ils ne sont pas croyants, ils n'ont pas la foi et donc on a des désaccords de fond. Mais il faut utiliser toutes les forces vives en notre possession face à la colonisation et face à l'ignorance. Et donc, pourquoi pas avec des militants communistes.
On rapporte plus tard que l'un des oulémas, Ahmed Hamani, à la mort de Staline, disait, parce qu'il devait y avoir ce jour-là une réunion importante qui a été annulée, et il dit aux gens, vous n'avez pas vu la presse, ou vous n'avez pas lu, le camarade Staline n'est plus. Et peut-être même avec une certaine émotion. Un autre point, c'est que l'association des oulémas a beaucoup milité pour l'application de la fameuse loi de séparation, celle du 9 décembre 1905. Ça paraît inouï, mais leur désir, leur volonté, c'était l'application de la loi. Non seulement parce qu'il faut que la loi puisse être partout sur les territoires de la République, mais parce qu'ils y voyaient l'intérêt de séparer les deux ordres.
Oui, c'est un autre aspect paradoxal a posteriori, mais qui en fait est très logique dans la logique de l'époque. C'est-à-dire que comme la France coloniale avait réquisitionné toutes les fondations pieuses, donc qui permettaient le financement des institutions religieuses, la France a administré l'islam en Algérie dès le début de l'administration du territoire, donc après la conquête de 1830. Et elle s'est servie de certains oulémas pour instaurer une sorte de clergé musulman officiel colonial que contestait l'association des oulémas musulmans algériens. Et en fait, comme ces oulémas portaient la contestation par leurs écoles, par leurs écrits, parce qu'il y a aussi l'importance vraiment cruciale de la presse et du développement de la presse en langue arabe et en langue française de l'association des oulémas, ils ont été très vite ciblés par les autorités coloniales comme étant, comme appelant au nationalisme, comme étant un danger potentiel. Et à partir de 1933, ils n'ont plus le droit de prêcher librement dans les mosquées. Et donc c'est dans les mosquées libres qu'ils ont fondées qu'ils peuvent organiser le prêche et le culte selon leurs propres orientations, alors que dans les mosquées officielles, il faut que ce soit un membre du clergé, du coup, entre guillemets, officiel musulman.
Alors, on rapporte qu'il y avait une délégation des oulémas conduite par Ben Badis, venue en métropole à Paris, plaider auprès du Conseil d'État pour l'application de la loi de séparation, mais ils étaient déboutés. Et ils ont même écrit, dans leur organe central, le Météore, ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui, dans un état laïque, avouez-le, est un peu cocasse. Ont-ils compris l'intérêt de la laïcité ou c'est une tactique de leur part pour ne pas être inféodés à l'autorité coloniale, à l'administration?
Alors, les débats de l'époque dans la presse montrent qu'il y a très clairement un enjeu sur leur possibilité d'enseigner, de prêcher à leurs co-religionnaires. Dans les années 40 et 50, c'est le Cheikh al-Ibrahimi, donc le successeur d'Ibn Badis, qui a mené vraiment la fronde pour la séparation du culte et de l'État. Ils y ont effectivement l'argument que eux seraient les vrais représentants de l'islam qui n'est pas inféodé. Donc on retrouve quand même cette dimension-là. Après, il y a aussi certainement une certaine idée que la liberté de prêche dépend de cette loi-là aussi et que ça bénéficierait à l'ensemble de la société algérienne.
Si on fait un peu l'Uchronie étant ce qu'est l'utopie pour l'espace, l'Uchronie l'est pour le temps, cette fameuse histoire parallèle, histoire alternative, si jamais la loi de séparation était bien appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée, cela aurait ancré davantage l'idée de séparation bien comprise en contexte islamique et ça aurait été un modèle pour les autres contextes.
Je sais pas, parce que si on pense à la Turquie par exemple, où il y a eu la période kémaliste avec une une volonté justement de, d'organiser, de séparer. Bon, je ne sais pas si forcément ça serait allé là où vous pensez que ça serait allé.
Oui, parce que dans mon idée, c'est qu'il y avait aussi des débats au sein des oulémas à propos de Mustafa Kemal Atatürk, et certains voyaient que c'était bien ce qu'il faisait.
Oui, bah, Ben Badis, par exemple, a écrit un article en 1938 pour soutenir l'action de Mustafa Kemal, qui avait aboli le califat en Turquie. Donc, après, c'était sur l'idée qu'il allait permettre justement la régénération, la renaissance et la modernisation de la religion.
En France, serions-nous inspirés d'avoir l'équivalent, en le réactualisant et en l'adaptant au contexte français, une émergence d'ouléma ou un corps de clercs ou avec l'audace intellectuelle qui est celle des oulémas algériens ou des oulémas maghrébins d'une manière générale.
Là, je crois qu'il faut voir un petit peu les changements qui ont eu lieu au moment des décolonisations et de tous les bouleversements aussi des années 60-70, avec dans les années 70 l'émergence de personnalités religieuses qui prennent la parole sur les questions religieuses, mais qui ne sont pas des oulémas, qui ne sont pas des savants religieux à proprement parler, comme on l'entend traditionnellement auparavant, c'est-à-dire des gens qui sont formés en sciences profanes, en sciences de l'éducation, en mathématiques, mais qui se sont formés par ailleurs, d'un point de vue personnel, en sciences religieuses et qui émettent des avis sur la façon dont il faut pratiquer, etc. Et c'est vraiment le début dans les années 20 et 30 déjà de ces nouveaux intellectuels religieux, on peut dire. Et ça se développe beaucoup après. Et en fait, on a encore dans les années 50 et 60, dans les États qui se constituent indépendants, l'idée donc de l'administration de l'islam par l'État. Donc je pense à Nasser par exemple en Égypte, ou pour l'Algérie également ça a été le cas, Tunisie, Maroc. Mais aussi donc des oulémas qui sont organisés par le pouvoir avec un ministère des Affaires religieuses par exemple. Et puis par ailleurs des personnalités, donc des intellectuels ou des gens qui ont aussi un discours d'autorité sur la religion, mais qui ne s'inscrivent pas dans ce parcours-là de l'État. Et si on pense à l'association des oulémas algériens, donc que j'ai étudié après l'indépendance, en fait, je disais qu'il y avait une grande diversité. On les retrouve dans les différentes catégories que j'évoquais, c'est-à-dire que il y en a à la fois qui s'insèrent dans le culte officiel, donc dans l'administration du culte au sein des ministères des Affaires religieuses. Il y en a une grande partie qui s'insère dans le ministère de l'Éducation nationale parce qu'ils étaient d'abord enseignants pour la plupart, et une partie qui prend la tangente, qui ne cautionne pas l'autorité politique sur l'islam telle qu'elle est instituée dans l'Algérie, qui est en plus une Algérie socialiste, et qui donc font partie du courant ce qu'on appelle islamiste à partir des années 70.
C'est-à-dire qu'ils auraient dégénéré vers, ou en tout cas fourvoyé, si on pense que ce qu'ils faisaient avant était bien, de mon point de vue, oui, parce que le pouvoir en Algérie a tourné le dos aux idéaux pour lesquels ce qui est appelé de l'autre côté de la Méditerranée la révolution, et notamment le fameux congrès de la Soumam qui prévoyait une Algérie libre, démocratique, laïque, avec la séparation. Et ce ne fut plus le cas. Et donc cette trahison-là a poussé certains à se retirer des affaires tout court, des affaires de la gestion de la cité, et d'autres ont versé dans l'islamisme pour devenir candidats sur les listes du Front islamique du salut pour la représentation nationale.
Si on va jusqu'aux années 90, effectivement, pour certains, alors c'est une toute petite partie en fait par rapport à la grande masse des membres de l'association des oulémas, et on les retrouve beaucoup plus enseignants que dans ces, mais ils peuvent être enseignants et islamistes sur les listes du FIS aussi.
Et il y a une sorte de mise en veille globalement entre 62 et 91, et après elle régénère, mais peut-être avec moins d'éclat.
Le contexte est complètement différent, effectivement. Donc, en fait, l'association des oulémas musulmans algériens, elle existe à nouveau aujourd'hui, depuis 1991 officiellement. En fait, au moment de la guerre d'indépendance, les oulémas se sont prononcés en 1956 de façon officielle depuis l'Algérie sur le rattachement au Front de Libération Nationale. Donc, c'est le moment de la fin formelle de l'association pendant la guerre d'indépendance à cause de la répression qui s'abat sur elle. Et après, à partir de 1962, l'idée, c'est que l'Algérie indépendante ne doit pas reproduire les divisions qui préexistaient à son avènement et que donc on ne va pas recréer les associations ou les partis qui existaient avant. Et effectivement, il n'y a plus d'existence formelle de l'association, mais il y a toujours ce réseau que j'évoquais avec les différents héritages. Et elle est reformée à partir de 1991, mais il n'y avait pas eu de dissolution. Donc elle est reformée par des anciens qui sont les autorités du témoignage, en fait, de l'héritage de cette association des oulémas, mais en fait autour d'un pôle qui est complètement renouvelé, mais qui se réclame de cet héritage-là, sachant qu'aujourd'hui en Algérie, tout le monde peut se réclamer de l'association des oulémas selon comment on l'interprète.
Dans le contexte national français, pensez-vous qu'il est salutaire d'avoir une association d'oulémas ou des oulémas ou un collège d'oulémas libre, indépendant, probe, intègre, sérieux et surtout compétent?
Oui, après, toute la question va être comment on définit les compétences et l'intégrité de ces personnalités. Mais c'est l'objet de tous les débats
actuels,
mais c'est vrai que on est aussi confronté au fait qu'on se réfère à des personnalités et comme on est dans une ère très médiatique, c'est aussi qui médiatiquement a la parole. Et peut-être que le fait d'avoir une association permettrait d'avoir une parole collective, collégiale, qu'on a moins là, parce que c'est beaucoup porté par des individus.
Merci Charlotte Courrey, merci. Vous êtes maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, vous êtes historienne et arabisante, et vous connaissez très bien les arcanes des associations au pluriel, des oulémas, et vos travaux sur l'association des oulémas algériens nous ont beaucoup aidé à préparer cette émission et je vous en sais gré. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter, podcastée sur le site de France Culture et l'application Radio France. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation est assurée par l'ami Franck Lilin.